Bonjour et bienvenue dans La Terre à Boire. La Terre à Boire, dont c'est la rentrée. Oui, oui. En fait, c'est la vraie rentrée. Parce que depuis le début de l'année, c'est vrai qu'on a posté des épisodes. Mais pour être complètement honnête, c'est des choses qu'on avait enregistrées l'année dernière, en fin de saison. Là, c'est la vraie rentrée. On est tous là, autour de la table, au Studio Module, qui est un peu notre deuxième maison. Hein. Après le Wine Therapy, c'est le Studio Module. En parlant de Wine Therapy, autour de la table, évidemment, il est là. Laurent Delceau, bonjour.
Bonjour.
Le patron du Wine Therapy. C'est toujours rue de Montholon, à Paris.
Eh oui, ça n'a pas bougé.
Près du métro Cadet.
Ouais. Ah oui.
On y voit toujours des vins,
des
de petits
vins
producteurs.
Qui plaisent a priori à mes clients jusqu'à présent.
Petite tendance sur le vin
toujours
bio.
Toujours des tas de nouveautés qui rentrent, ça fait plaisir. Et puis là, en plus, on a plein de salons qui démarrent. Là, et on goûte des nouvelles choses et on rentre des nouvelles choses. C'est un vrai bonheur.
Avec toujours cette clientèle éclectique de Parisiens, de provinciaux, d'étrangers.
Très mixte.
De gens de passage.
La Coupe du Monde de rugby apporte son lot de belles surprises.
Des Sud-Africains
notamment. Oui, très, très sympa. Et puis beaucoup d'Irlandais. On a vu à Paris, là,
qui ne boivent donc pas que de la bière.
Non, les Irlandais. Et d'ailleurs, je remercie au passage Suzanne, notre amie Suzanne.
Et hop, il passe son petit message perso.
Qui vit à Paris et qui vient régulièrement au bar, qui est irlandaise. Et qui m'a fait un petit papier dans l'Irish Times, qui m'a apporté un certain nombre de clients.
Merveilleux.
Voilà.
Wine Therapy,
Irish Times. Okay. Une adresse où aller à Paris quand on est irlandais et qu'on se demande où boire du bon vin, c'est chez moi. Merci, Suzanne.
Pourquoi pas ? Merci Suzanne et merci à toi d'être là. C'est la rentrée aussi pour Valérie Ouvertus. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Toujours caviste.
Absolument. Ouais.
Toujours dégustatrice, organisatrice de dégustation.
Ça m'arrive.
Toujours un testing.
Yes.
Voilà, si vous cherchez Valérie, vous voulez organiser une démonstration, je veux dire, une dégustation chez vous.
Dégustation.
Vous faites un testing et vous la trouvez.
Absolument.
Et puis c'est la rentrée. Avec Patrice Defay. Bonsoir Patrice.
Bonsoir.
Toujours passionné ?
Toujours à fond.
Toujours passionnant ?
C'est à vous de le dire, c'est pas à moi.
Bon, on est content de se retrouver. En plus, on a un sujet, un thème. Alors c'est Laurent qui nous l'a apporté, ce thème, on va y revenir. Qui nous fait tous un petit peu pétiller des yeux, parce que pour être tout à fait honnête, je pense qu'on n'avait pas beaucoup entendu parler de ces vins avant que Laurent nous en parle. Ce sont les vins arméniens. L'Arménie, un des berceaux du vin, on va y revenir. Il y a une concurrence avec un autre pays, mais ce sera peut-être un des éléments du débat. Et on a surtout un invité pour nous parler de vin arménien. Bonsoir, Chant Zadourian.
Bonsoir.
Donc ton prénom c'est Chant et ton nom, comme on l'a tous compris, c'est Zadourian.
Zadourian.
Tu es importateur de vin arménien à Paris, dans une boutique qui s'appelle
Kenatz.
Kenatz, qui veut dire
à la vie. C'est le santé en arménien.
Voilà, santé, Prost,
Exactement.
On a toute une déclinaison comme ça. À la tienne. Donc Kenatz, à la vie. C'est joli comme expression pour dire santé.
C'est joli, ça donne envie de lever le coude.
Exactement.
Laurent, comment tu as rencontré Chant ?
Eh bien, tout simplement parce que parmi mes clients, j'ai un garçon qui s'appelle Maxime, qui, évidemment, est arménien et qui m'a parlé de Chant et de sa boutique, de sa cave qui se trouve dans le 15e. Et comme tu l'as dit, ça fait partie des nations du vin dont on sait que le vin est originaire, mais dont on a rarement goûté des vins. C'est quand même assez rare. On parle beaucoup de la Géorgie parce qu'il y a tout ce phénomène de vin blanc de macération aujourd'hui qui fait que les gens se rendent compte que il y a des vins blancs de macération, ça existe depuis longtemps et puis ça vient souvent dans l'imaginaire de Géorgie, mais l'Arménie fait partie aussi de ces berceaux du vin, comme tu l'as indiqué. Et donc moi j'étais très curieux de creuser ce sujet.
L'Arménie, berceau du vin, il n'y a pas de concurrence avec la Géorgie, en fait, vous êtes voisins.
On est voisins, c'est l'un des pays berceaux du vin. Toute la région, je pense que, peut-être même qu'au nord de l'Iran, il doit y avoir des choses qui datent de
puis comme
plusieurs milliers d'années. Donc,
à l'époque, il n'y avait ni Géorgie, ni Arménie. Enfin, ces pays-là, administrativement, n'existaient pas, donc on parle
exactement.
Bien du berceau de la viticulture.
On peut parler du Caucase. Le Caucase et le berceau, comme ça, on rallie tout le monde, qui est une chaîne de montagnes et qui se situe entre deux mers importantes. Mais on peut simplement dire que le Caucase est le berceau de la viticulture. Et on en reparlera, mais c'est même le berceau de, selon les dernières études, de Vitis vinifera sativa, c'est-à-dire de la version cultivée. C'est là où Sylvestris, la vigne forestière, est devenue cultivable, donc sativa. Donc on en reparlera plus tard dans la mission. Mais le Caucase, voilà. C'est
garde, garde la main, Patrice, fais-nous un petit, une petite présentation de les vins arméniens. Puis Chanty va nous dire tout ce que.
Il y a une guerre un peu entre la enfin, sur l'origine de la viticulture entre la Géorgie et,
petite concurrence,
et l'Arménie. Ouais, enfin, oui, exactement, une concurrence. Après, il y a eu une autre concurrence au niveau de l'affectation sous l'époque russe entre qui est-ce qui devait faire du vin. Et pour Staline, c'était plutôt la Géorgie, puisqu'il était originaire de Géorgie. Donc, il a spécialisé dans la Grande Russie,
ah, oui,
la Géorgie sur le vin et l'Arménie sur le brandy, donc le cognac. Ce qui fait que la viticulture a été mise un peu sous les teignoirs russes pendant longues années. C'est intéressant de revoir que ça renaît depuis une vingtaine d'années.
Ça fait Joseph.
Mais, voilà, enfin, à Rény, on a retrouvé des cuves donc de manière industrielle, parce qu'il y a 480, je crois, cuves du côté d'Arény. Il y a un deuxième.
Arény, qui est la ville. Alors, emblématique, c'est une ville, du vin en Arménie, c'est ça?
C'est une ville, c'est un cépage aussi.
C'est une ville, un cépage, potentiellement même, d'après certains empélographes, une famille de cépages qui aurait plusieurs types d'Arény. On redécouvre constamment, mais oui, c'est le nom, pour le moment, d'un cépage, le nom de la ville où se trouve cette fameuse grotte des oiseaux, qu'on appelle des oiseaux, où on aurait retrouvé l'un des premiers chais au monde datant de 6000 ans.
Donc c'est le berceau, voilà, c'est le berceau en tout cas de la viticulture historiquement datée, et c'est le berceau aussi, alors plus biblique, hein, parce qu'on parle du mont Ararat avec qui est à l'ouest de l'Arménie, où Moïse aurait Noé aurait mis les premières vignes en débarquant de son arche. Donc voilà, c'est à la fois le berceau historique et le berceau mythologique de la vigne. C'est le Caucase en général et l'Arménie en particulier. Après, c'est un très petit domaine. Hein, si on compare, c'est 16 000 hectares de vignes, donc ça correspond globalement à l'ensemble du Beaujolais. 16 000 hectares, donc c'est pas très très grand. Et c'est même 2100 hectares qui sont vraiment dédiés au vin, pur et dur, parce que le reste c'est plutôt pour le brandy, toujours. Donc ça correspond au grand cru du Beaujolais. Hein, donc en fait, le vin d'Arménie, ça correspond globalement à la géographie, en termes de surface, des vins du Beaujolais. Après, avec beaucoup plus de diversité.
On a fait 4 émissions sur le Beaujolais, on peut faire une émission sur l'Arménie. Hein.
Bien sûr, avec beaucoup plus de cépages. Il y en avait 300 avant l'époque russe, et il y en a 55, selon certains dires, plutôt 40 aujourd'hui qui sont exploités. En tout cas, je parle de cépages endémiques, parce qu'il y a aussi des cépages internationaux qui commencent également à arriver. Mais voilà, donc voilà, c'est un petit joyau perdu au milieu du Caucase, qui est probablement l'origine de la vigne tout court, parce qu'il n'y a qu'une seule race européenne, c'est Vitis vinifera, et on pense que c'est là qu'elle est née, grâce aux conditions géographiques exclusives du Caucase à l'ère glaciaire, qui a permis d'avoir une seule espèce de vigne. Il y en a 37 en Asie, il y en a 34 en Amérique du Nord, il n'y en a qu'une en Europe, mais c'est celle qui fait les meilleurs raisins, puisque c'est celle qui fait Vitis vinifera, donc la vigne qui fait du raisin et qui fait du vin. Voilà, donc c'est clairement un pays intéressant à explorer. Après, qu'il y a plein de conditions complexes, hein, parce que c'est un pays d'altitude, on est entre 900 et 1800 mètres d'altitude, c'est un pays où il fait plutôt très ensoleillé, je crois qu'il y a 300 jours de soleil par an, par contre très continental, donc avec beaucoup de fraîcheur aussi la nuit, qui permet de maintenir des acidités. Donc il y a une espèce de conjonction.
L'alignement de planètes, là,
voilà. Et après, en termes de latitude, on est plutôt au milieu de l'Italie, hein, on est au 40e, donc on est un petit peu au sud par rapport à la ligne idéale de 45 latitude, qui est la ligne de Bordeaux et puis du Piémont en Italie. Mais l'altitude permet d'avoir des conditions proches du 45e en termes d'optimal, de conditions pour le raisin.
Valérie, tu t'y connais en vin arménien ?
Alors absolument pas, mais vraiment pas. Mais justement, je suis ravie d'en apprendre davantage aujourd'hui, parce que clairement, c'est passionnant de découvrir justement des vins qu'on imagine, dont on se dit à chaque fois, ce sont des vins qu'on pouvait boire peut-être il y a très longtemps et qu'on boit plus, alors qu'en fait, ça revient. Et clairement, enfin moi, j'ai hâte de déguster les. Parce que oui, parce que ce que les auditeurs, pour ceux qui ont l'habitude de suivre la terre à boire. On va déguster du vin ce soir. Donc
oui, c'est vrai, c'est bien de le rappeler. Il y a deux bouteilles, là. On est
parce que Chante a eu la gentillesse de nous apporter. Donc, on dégustera tout à l'heure.
Peut-être pendant qu'on sert un premier vin, tu vas nous parler du vin, Chante. Mais j'ai envie de te poser la question. Toi, tu es un Arménien de France. Tu es né ici.
Né en France. Parisien.
Parisien, tout simplement. De parents arméniens.
Une maman arménienne du Liban. Un papa arménien d'Iran.
Voilà, c'est qui dit déjà beaucoup de choses sur cette communauté qui est nomade. On a l'habitude d'associer les Libanais aussi, qu'on retrouve un peu partout dans le monde. C'est un peu vrai des Arméniens aussi. Il y a une diaspora très importante.
Ouais, un événement tragique au début du 20e qui fait que tout le monde s'est éparpillé un petit peu partout.
Le génocide.
Puis, ouais. Et donc, du côté de ma mère, direction le Liban et après, direction la France après la guerre civile libanaise. Et puis, côté paternel, c'est plutôt les Arméniens commerçants, on va dire, de l'époque de la route de la soie. Il y avait déjà des Arméniens qui étaient dans le nord de l'Iran, là, en l'occurrence mon père, dans la ville d'Isfahan, qui était culturellement pour la Perse, on va dire, le bastion de la culture. Et donc il y avait déjà énormément de commerçants arméniens qui vivaient dans cette région, dans cette ville. Donc lui, il est originaire de là-bas. Et lui, c'est fuite de révolution islamique et arrivé à Paris. Rencontre à Paris et chantez là.
Chantez là et chantez est avec nous. Et qu'est-ce qui te relie, toi, au vin? Est-ce que le vin était présent dans cette famille arménienne exilée?
Le vin était présent, mais plutôt pas en tant qu'arménien, plutôt en tant que français, ouais. En fait. Ma passion pour le vin vient du fait d'être.
D'avoir grandi ici.
Ouais, d'être en vérité français épicurien, en fait. J'aime bien manger, j'aime bien boire. Donc. Explorer, goûter des vins des quatre coins du monde, essayer de creuser un petit peu davantage, faire des voyages dans les régions viticoles de France. Et puis, voilà, petit à petit le projet, l'idée de présenter les vins arméniens en France, qui était quasi, on va dire, inexistant, est né. Et donc voilà, lancement du projet.
Depuis combien de temps ça existe, Kenat?
Kenat existe depuis, on va dire, 2 ans et demi.
D'accord. Ouais. C'est encore un petit bébé.
C'est encore un petit bébé.
Mais tu avais déjà commencé à importer du vin avant d'ouvrir la boutique en elle-même?
Ouais. L'idée du projet, c'était de travailler sur l'axe de la distribution, on va dire. Sauf que quand j'ai commencé le projet avec mes associés, c'était fin 2019. Et en fait, on fait un salon professionnel de vin, Wine Paris Vin Expo en 2020, en février 2020, sauf qu'on sait tous ce qui se passe
juste
un
après.
Mois après, ouais. Le Covid. Donc là, tout le monde ferme, donc il faut vendre, il faut trouver une solution. Donc, bon, à force de vendre aux copains, à la famille et l'entourage, je me suis dit pourquoi pas créer la cave. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde, donc on va créer la cave des vins et spiritueux d'Arménie. Voilà.
Qu'on peut trouver donc à Paris. Et c'est quoi l'adresse dans le 15e?
69 bis, rue Brancion.
Rue Brancion.
Dans le 15e.
Alors, parlons vin. Oui, non. Parlons vin. Le premier de ces vins, il a un nom qui est assez amusant. Il s'appelle Touche Pas.
Oui.
Parle-nous de ce vin.
Le domaine Touche Pas. Touche Pas, bon, c'est un...
T-U-S-H-P-A.
Un mauvais jeu de mots, mais c'est le royaume de Touche Pas qui se situait aux alentours de du lac de Van, qui se trouve aujourd'hui en Turquie, qui serait le lieu de naissance du peuple arménien. Donc le domaine a voulu faire un hommage aux racines du peuple arménien en nommant son domaine Touche Pas. On va se situer dans la région d'Ararat. On est juste en face du fameux mont Ararat. On va être à 1000 mètres d'altitude. Sur un sol volcanique, puisque le mont Ararat est un volcan éteint, mais c'est un volcan, donc il va vraiment irradier tous les sols et toutes les régions viticoles qui sont à la frontière avec la Turquie.
Est-ce qu'on est en franc de pied? Parce que parfois, quand on est dans des sols volcaniques, on peut être en franc de pied.
Les deux vins qu'on va déguster sont en franc de pied.
Ah, intéressant.
Ce qu'on oublie, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que une des raisons qui fait que le vin est né là-bas, c'est que aussi ça a été préservé de toutes les attaques
phylloxériques,
ouais. Etc. Donc,
on est sur des vignes pré-phylloxériques. Donc, on a une vinification en cuve. Le cépage s'appelle Kangoun. K-A-N-G-U-N.
Ok.
Fermentation levure indigène.
C'est bio?
Biodi, plutôt.
Ah, c'est avec du label et tout ça, ou de la pratique biodynamique? Il n'y a pas de label, mais la pratique biodynamique...
Alors, ils font, en fait, sans le... La plupart des domaines travaillent déjà de manière, on va dire, bio, mais sans le savoir.
Déjà, ils ne mettent pas d'intrants?
Certains domaines le font, mais on va dire sulfité, par exemple, quand on met du sulfite à la mise, en bouteille. Dans le travail de la terre, on ne va pas en mettre. Pour des raisons assez simples au final, c'est que, au même titre que les vendanges se font de manière manuelle, la machine ça coûte cher, les produits chimiques, il faut les acheter, ça coûte cher, et à concours de circonstances, la main d'œuvre coûte pas cher. Donc en fait, on fait tout de manière artisanale, entre guillemets.
Vous n'avez pas eu les accords avec les Américains à la base pour écouler les produits chimiques non plus, peut-être?
Peut-être, mais ça coûte cher, Monsanto.
Parmi l'offre de vin arménien, parce que juste avant l'émission, on a échangé un petit peu et je t'ai dit, mais t'es le seul à faire des vins arméniens. Tu m'as dit non, pas tout à fait, mais la présence de vins arméniens, c'est plutôt des gros domaines qui arrivent à percer le marché, qui arrivent quand même sur le marché français. Toi, tu prends contre-pied par rapport à ça. Ça t'intéresse pas d'aller travailler le vin industriel. Enfin, je sais pas s'il y a du vin industriel en Arménie, mais c'est pas les gros domaines qui t'intéressent.
Il y a du vin industriel, mais ma démarche était... différente, je dis pas qu'elle est meilleure que l'autre.
Si, nous on va le dire.
Moi je trouve, enfin, je voulais mettre en avant
nous,
les cépages.
Nous on la préfère en tout cas.
Voilà, on la préfère.
Je voulais mettre en avant les cépages. La diversité des cépages.
Oui, Patrice en a dit un mot, mais on commence à avoir du chardonnay, des cépages internationaux.
Il y a des domaines qui travaillent avec du cépage français, on va dire.
Cabernet France prête bien aux conditions. Ouais. C'est un peu la Loire en fait.
On va avoir de la Syrah.
C'est la Loire ou c'est le Beaujolais? Il faut que tu choisisses, Patrick.
C'était en termes de surface. Alors, je vais arrêter après les analogies.
Pour les cépages blancs, par exemple, et sur les cépages européens, il y aurait quoi, par exemple, de
Sauvignon.
Planter? D'accord.
Sauvignon, Chardonnay.
Ok.
Les conditions générales du pays sont plutôt favorables aux cépages blancs. L'altitude, le côté assez frais, fait qu'il y a 75% dans le volume, il y a 75% en blanc et 25% en rouge.
Donc là, dans ce qu'on déguste, là, sur cette bouteille-là, on est d'accord que ce cépage-là, c'est celui qui est le plus planté en Arménie?
C'est l'un... Alors, en blanc, c'est l'un de ceux qui est le plus planté.
D'accord.
Comment vous trouvez ce vin?
Très agréable, enfin, très frais, très agréable.
Alors, c'est amusant parce que, bon, il y a de la fraîcheur, mais en même temps, on n'est pas assailli par l'acidité. Enfin, oui. Je ne sais pas si oui, je m'exprime bien sur le sujet, mais l'idée, c'est qu'on a...
Ça déchausse pas les dents, quoi.
Ouais, non, mais c'est une fraîcheur qui est douce, une douce fraîcheur. Je sais pas si...
C'est
très parlant pour les auditeurs, mais on a vraiment quelque chose d'assez gourmand. Hein. Il y a une aromatique fruitée très, très, très agréable. Et en même temps, on est sur un vin qui peut très bien accompagner l'apéro, qui est très agréable pour attaquer la soirée.
Il y a des agrumes, il y a une certaine acidité.
Oui, mais elle est pas...
Très élégant, hein.
Ouais, elle est...
C'est bien équilibré, quoi.
Ouais.
Un et côté perlant.
Légèrement perlant.
Trop. Moi, je ne l'ai pas trop, là. Franchement.
Moi non plus, ça ne me dérange pas. Non, souvent, le perlant, j'aime bien m'en débarrasser assez rapidement.
Après, j'aime bien dire que je l'ai deviné au goût, mais ce qu'on lit sur les contre-étiquettes, c'est que, et ça se sent en bouche après, a posteriori forcément, c'est qu'en cuvinox, donc on est un peu c'est quelque chose de très droit, sur le fruit, sur le blanc, il n'y a pas d'élevage. Quelque chose de très direct.
On
ne vient
pas te perturber avec un goût de tonneau.
Oui, après, l'élevage peut être très bien fait aussi, mais là, le propos est d'être très direct sur le cépage.
Puisque tu parlais de cette expérience en tant que Français, finalement, à avoir découvert le vin, parce que voilà, ça fait partie de la culture. Est-ce qu'on consomme du vin en Arménie? Parce qu'il y a des pays qui sont producteurs, mais qui consomment finalement très peu. Je pense au Chili, qui produit énormément, qui consomme très peu, qui exporte beaucoup. Au Portugal, où au contraire, on consomme énormément et finalement, on n'exporte pas tant que ça. Comment ça se passe en Arménie? J'imagine que c'est beaucoup de consommation locale.
Les nouvelles générations se mettent de plus en plus au vin et à la production locale. Les anciennes générations sont encore à la vodka. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était...
C'est le bain culturel.
C'est une ex-république soviétique. Donc forcément, les mentalités ont changé, comme le rappelait Patrice. On avait un quasi-arrêt de la production de vin, entre guillemets, au niveau industriel. Il y a toujours eu du vin. Les familles ont toujours produit du vin pour leur consommation personnelle. Mais le producteur de vin, c'était la Géorgie. Donc forcément, ça change les méthodes de...
Ça, c'est vraiment la planification soviétique qui avait instauré ça, c'est ça?
Chaque pays avait un rôle à jouer. Donc,
c'était
le brandy. Le brandy et
le brandy, on rappelle, c'est fait avec
les avions de chasse et tout ce qui était un peu technologique. Les MiG, aujourd'hui, russes, c'est Migoyan. C'était un...
C'est une ville d'Arménie.
Non, c'est les avions de chasse russes.
D'accord. Oui, les MiG.
Et
oui,
le producteur, c'était Migoyan.
D'accord, ok. Je connaissais pas.
Monsieur Migoyan.
D'ailleurs, on fait le brandy avec quel cépage
On peut faire avec un cépage qui s'appelle Banance, comme banane, mais Banance. Mmh. Et on peut aussi utiliser un autre cépage que j'ai pas pu amener, mais qui s'appelle Voskehat, qui veut dire baie dorée.
D'accord,
qui
donc est l'un des cépages. Le Voskehat a une forte notoriété en tant que vin en tant que
vin tranquille, oui, bien sûr.
Tranquille, il est très, très réputé, c'est
bien sûr.
On considère, après, en termes de gustatif, que c'est un des vins
exactement.
À très fort caractère en Arménie. D'accord.
Ouais. Donc là, aujourd'hui, les jeunes générations se mettent de plus en plus au vin. Au même titre qu'en Occident, de plus en plus de bars à vin fleurissent.
C'est la boisson nationale. La boisson nationale, c'est l'Arménie. Je pense qu'il y a une question de...
C'est le vin.
Pardon, c'est le vin. Et il y a une question de revendication un peu de ses racines, je pense, dans la jeune génération.
De revenir un peu aux racines.
Ouais, de revenir
On est un pays de vin, on n'est pas un pays de vodka à l'origine.
Puis, enfin, entre nous, c'est quand même curieux de comparer le vin et la vodka. En fait, c'est quand même pas la même consommation. Mais peut-être que dans l'ancienne Union soviétique, en
table,
fait,
vous pourrez si boire vous êtes, de la vodka à tabler pour dîner, vous retrouverez toujours
bouteille de vodka.
Des gens qui seront en train de dîner avec la vodka.
Mmh.
Mais parce qu'ils savent boire aussi.
Ah, ça, je
sais. C'est un peuple montagnard. C'est-à-dire que on ne boit pas de la vodka dans les boîtes de nuit. Quand vous buvez de la vodka à table, vous mangez, vous prenez un shot de vodka qui va vous ouvrir l'appétit. Vous allez manger pendant 10-15 minutes sans boire et après, une fois que vous avez
oui, on ne sirote pas sa vodka comme on boit du vin.
Là, vous pouvez boire. C'est très bien aussi, mais c'est, gustativement, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le vin. Encore que une bonne vodka issue de blé, de céréales, n'a rien à voir avec une vodka issue de pommes de terre. C'est bien plus aromatique, plus gras en bouche, c'est plus doux. Voilà. C'est bon, une bonne vodka, c'est très bon.
Ah ben, j'en doute pas. J'en bois très peu, mais j'en doute pas. Ça doit être. Si c'est bien fait, artisanalement, tout ça.
Mais le vin, c'est...
Le vin, c'est au-dessus de tout, on est bien d'accord. C'est pas ici qu'on va te dire le contraire. Voilà.
Et touche pas, du coup, on la touche à quel prix
Il est lancé sur les jeux de mots ce soir, Patrick. C'est la rentrée, il est au taquet, là.
14,50€.
Est-ce que tu es très raisonnable?
À ta cave.
À ma cave.
D'accord, oui.
Il y a la cave et il y a une activité d'importateur. Donc ça veut dire que tu as sélectionné, tu es parti en Arménie. Quand tu t'es venu cette idée en tête de sélectionner des vins arméniens et les faire découvrir à un public français, si je résume bien le projet, du coup, tu t'es mis à arpenter le pays, peut-être que tu connaissais déjà parce que tu y allais, j'imagine, en vacances.
Exactement.
Avec un œil différent.
Bah, c'est un œil différent.
Est-ce que tu as redécouvert le pays de tes parents ?
Redécouvrir le pays et puis découvrir. C'est aussi une aventure humaine au final, c'est de redécouvrir les racines, mais ce que le pays a à offrir en termes de production vinicole et puis voir comment ils travaillent. L'idée, c'est d'aller au maximum dans les domaines et puis goûter, sélectionner des choses qui peuvent m'intéresser, mais qui peuvent aussi... L'idée, c'est pas d'amener des vins qui sont totalement foufou et qui seraient compliqués à présenter ici en France.
Forcément, tu penses aussi
au
public.
La première fois, on nous a dit, vous allez vendre du sable aux Bédouins. Vendre du vin arménien aux Français, c'est culotté. Mais bon, il y a du vin italien, pourquoi il n'y aurait pas du vin arménien?
Absolument.
Il y a du vin australien, on a fait des émissions dessus, et du vin sud-africain qui vient de beaucoup plus loin. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de vin arménien. Comment ils t'ont... Ils t'ont reçu donc comme ça, un peu comme un extraterrestre, de vouloir apporter du vin arménien à des Français.
Au début, un petit peu, oui. Au début, un petit peu.
Content aussi que tu leur dises, moi, je voudrais vous acheter quelques caisses là, parce que j'ai envie de le faire.
Très content, mais un peu
dubitatif.
Dubitatif sur le potentiel du marché. Mmh. Ce que je peux comprendre, eux, ils avaient quand même. Faut pas oublier que le premier marché pour le vin arménien, c'est la Russie, encore aujourd'hui. Après, on va avoir les États-Unis. La France n'est qu'une. C'est une infime.
Les États-Unis
partie.
En deux. D'accord.
Ouais, vous avez une... Si on parle uniquement de communauté, bizarrement, ça suit aussi le nombre.
La diaspora.
La diaspora.
Voilà. Où se situe la diaspora. Donc, mm-hmm. Vous avez la Russie, vous avez les États-Unis, la France. Donc, forcément, ça découle. Et j'espère que ça va augmenter en France.
Ah bah avec ce podcast là, ça va exploser, ça va être incroyable. Incroyable. Ils font déjà la queue là.
On décrit, je crois, à peu près 5 régions en Arménie. Il y a vraiment des différences dans les 5 régions, ou c'est vraiment des découpages géographiques où on peut développer une idée de... Alors, il y a forcément des spécificités. Hein. Est-ce qu'on est près du Mont Ararat ? Est-ce qu'il y a des notions de terroir un petit peu entre les cinq grandes régions arméniennes, ou on ne peut pas définir ça comme ça ?
Notion de terroir, oui. Non, alors, on va quand même avoir des... Si on s'en réfère uniquement au sol, par exemple...
Oui, bah, oui c'est un bon départ, oui.
Le sol va être quand même globalement volcanique sur les quatre ou cinq régions principales. Après, en fonction des endroits où vous allez vous retrouver, vous allez trouver autre chose. Vous allez retrouver de l'argile calcaire, par exemple. Et il faut monter un petit peu. Vous avez le nord de l'Arménie, une région qui n'est pas connue pour le moment pour ses vins, qui s'appelle le Tavouche, qui est justement au nord-est de l'Arménie, frontalière avec l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Là, vous avez un climat qui est complètement différent, des paysages complètement différents. Là où on va être vraiment très aride, très sec sur les régions principales, dans le Tavouche par exemple, c'est très vert. Ça ressemble visuellement, ça ressemble beaucoup plus à une jungle colombienne. Donc vous allez avoir des sols complètement différents, des sols calcaires, avec une minéralité très présente sur les vins. C'est complètement différent. Donc je ne pense pas que ce soit encore très très connu, cette notion de terroir, mais ça vient petit à petit.
On a parlé de... On goûte un vin là qui est donc du cépage Kangoun, qui est donc un monocépage. Est-ce qu'il y a une culture de l'assemblage également dans les vins arméniens ?
Il y en a une, mais qui n'est pas tant répandue que ça, finalement.
Principalement du monocépage.
Principalement du monocépage, ce qui est plus compliqué à faire sur le papier, mais ils font beaucoup plus de monocépage.
Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, le consommateur arménien, il rentre par le cépage comme dans le Nouveau Monde ? Où on se dit, ah tiens, je vais boire un chardonnay, je vais boire. Donc est-ce que je bois un Kangoun, ou est-ce que quand même il y a cette notion de...
La région.
La région, ouais, c'est ça un peu le...
Non, il rentre plus par le cépage.
D'accord.
Parce qu'effectivement, chaque cépage a sa spécificité. Je sais que si je veux avoir de la poire fraîche, un côté un peu pêche, une fin de bouche agrume, je vais aller plus sur le Kangoun. Si je veux aller... sur une minéralité un petit peu plus puissante et une fin de bouche un petit peu plus gourmande. Et sur le miel, je vais aller sur du Voskhad, par exemple. Voilà, moi, je fonctionne comme ça, en tout cas. Je voudrais parler pour tous les Arméniens, évidemment. Mais
est-ce que finalement, de toute façon, il n'y a pas une association, comme on peut le faire en France, de se dire, bah, on veut un pinot noir, on va en Bourgogne excusez-moi les autres régions.
ou en Loire, ou en Alsace.
Oui, d'accord, ou en Jura. Mais est-ce que c'est pas lié de toute façon à ce que finalement un cépage soit quand même associé à une région, ou finalement
entre les tous les cépages
se retrouvent un petit peu partout.
Les cépages ont une région native, on va dire.
Oui.
Mais vous en avez à peu près partout.
D'accord.
Donc goûter un Kangoun d'une région ne changera pas spécialement le goût en temps d'une autre, en fait.
D'accord, ok.
Donc là, typiquement, ça veut dire que la bouteille, le vin qu'on déguste, là, il est assez typique du Kangoun qu'on peut trouver dans n'importe quelle région d'Arménie, c'est ça
que je pense, sachant que chaque vigneron, après,
c'est un bon Kangoun. Ne touche pas.
Effectivement, chaque vigneron a sa pâte, évidemment. Mmh. Après, mais les notes aromatiques... Mmh. On va les retrouver dans tous les Kangoun, on va les retrouver. Au même titre qu'un chardonnay, on va reconnaître, entre guillemets, assez facilement un chardonnay, un sauvignon, voilà, il y a des marqueurs. Et voilà, en Arménie, c'est la même chose.
Donc pour l'instant, l'Arménie n'est pas dans une démarche de dire, voilà, on protège une espèce de typicité, de région, comme quand on a pu le faire en France avec l'INAO, hein, on parle toujours de l'INAO.
Ce qui est presque un peu spécifique à la France. On remarque qu'à l'Italie aussi, Portugal, les vins du Douro.
Une grande partie de l'ancien monde a quand même cette notion d'appellation. Et donc là, c'est pas encore...
Pas encore. Il y a des réflexions.
Ça vient sur la Rhénie. C'est quand même... Alors, désolé de mal le prononcer, mais on dit c'est quand même Vajot-Zor.
Vajot-Zor, oui.
Vajot-Zor, qui est quand même la région emblématique de...
Qui veut se différencier des autres.
Non, mais du cépage à Rhénie rouge, qui veut se différencier. Mais on dit que les meilleurs, l'expression ultime, on va dire, de la Rhénie pour l'instant en Arménie, c'est plutôt dans cette région qu'on trouve.
Il y a une démarche. Ouais. Il y a une volonté aujourd'hui, une association de vignerons qui s'appelle la Vine and Wine Foundation, qui est rattachée au ministère de l'Agriculture, qui souhaite, entre guillemets, codifier, faire mention sur les bouteilles d'un vin issu du cépage à Rhénie qui ne proviendrait pas de la région de Vajot-Zor, c'est de le mentionner. Voilà. Ah. Essayer de protéger petit à petit.
Commencer à cartographier un peu.
Ça prend du temps, mais il y a, cette volonté.
Ouais, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est à la fois le vignoble le plus vieux du monde et dans sa modernité, hyper jeune. Bien parce sûr. Qu'il y a eu le blackout russe quand même qui a mis ça sur les ténors. Et donc il n'y a pas cette profondeur de champ, on va dire, que... On revient de la Bourgogne, la Bourgogne A depuis 3 ou 4 ou 5 siècles de Clos des Moines, etc., qui ont travaillé les terroirs dans la durée, parce qu'on sait qu'il faut du temps. Donc, ce qui manque probablement aux AOC, je mets des guillemets, arméniennes, c'est le temps long depuis le blackout russe, quoi.
Bien sûr. Le temps russe, entre guillemets, c'est quand même 70 ans.
Oui.
C'est long, hein.
Oui, je me souviens qu'on avait fait cette émission là où on parlait des vins hongrois. Où le Tokaj avait été, en fait, la région avait perdu son savoir-faire sur. Ah oui.
Quelle
sur
bonne le, mémoire. Sur le Tokaj. C'était il y a longtemps, ça.
C'était avec Daniel.
Mais oui, Daniel Géraud.
Daniel Géraud. Et effectivement, ils ont fait appel finalement à des consultants un peu extérieurs à la Hongrie pour retrouver leur savoir-faire de l'époque où le Tokaj était le vin de la cour, des nombreuses cours européennes. Et donc là, j'ai l'impression quand même qu'il y a toujours eu cette tradition de continuer à faire du vin au niveau familial qui vous a peut-être préservé pour continuer à faire du vin sans avoir une vraie rupture. Il n'y a pas eu de vraie rupture en réalité quand même.
Au niveau production...
Si, quand même. Ouais.
Il y a quand même une rupture. Mais... les jeunes générations aujourd'hui qui sont qui travaillent dans les vignes ou dans les chais, en tant que maître de chais par exemple, sont souvent venus étudier en France.
D'accord.
Ou en Italie. Ils sont repartis pour essayer de mettre à profit leur savoir et leurs nouvelles connaissances, utiliser les techniques modernes tout en gardant cette tradition du vin arménien. Pour certains aussi en faisant appel à des consultants européens, voilà, pour leur apprendre comment faire. Comment passer le cap, on va dire, du vin mis en bouteille d'eau et le vin mis en bouteille en verre, avec le bon bouchon, le bon diamètre, professionnalisé, on va dire.
Qu'est-ce qui relève, à part l'histoire, et c'est monstrueux, mais qu'est-ce qui relève de la typicité arménienne? Est-ce qu'on peut parler des karats, par exemple, les amphores? Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise? Est-ce que maintenant, je crois qu'il y a du chêne arménien aussi.
Exactement.
Le chêne arménien est un très bon chêne, apparemment, pour vinifier en cuve. C'est quoi, en dehors des cépages, je dirais, les typicités de vinification, est-ce qu'il y a des typicités arméniennes?
La tradition, au même titre que la Géorgie, c'est les karas. Mm-hmm. On appelle ça les kvevri en géorgien, en arménien, on appelle ça les karas.
Donc des grandes cuves de terre cuite.
Jarres.
Qui sont enfouies, elles aussi, jarres. Ou
non,
pas nécessairement
la tradition arménienne, c'est de les enfouir à trois quarts.
D'accord.
Pour avoir, part, ce côté logistique plus facile de rentrer dedans et nettoyer. Beaucoup de vignerons se sont rendus compte que c'était plus intéressant d'avoir ce jeu entre température extérieure et température du sol. Ce jeu de température.
On parle de contenant de quel volume? Parce qu'une jarre, ça peut être
ça
petit,
peut être
mais
barrique. Il y en a version barrique et il y en a des beaucoup plus grandes.
L'équivalent d'un foudre ouais. Par exemple.
Ça va dire 200 à 10 000 litres, quoi.
Ouais. Où il faut rentrer dedans vraiment pour la nettoyer. Donc, mais il n'y a pas beaucoup, beaucoup de domaines qui travaillent avec les jarres.
Ça, c'est la tradition, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus répandu.
Non, pour une raison très simple, c'est que l'Arménie ne refabrique pas de jarres. Je dis jarres parce que c'est dans les jarres qu'on fait l'élevage. Les amphores, c'était juste pour transporter le vin.
D'accord, c'est bien de préciser ça, ouais. Parce qu'on parle toujours de vin en amphore dans les domaines qui...
C'est plus joli.
Qui, voilà, c'est ça. Mais, okay.
Mais ce sont des jarres, en terre cuite ou d'autres matériaux. Mais l'Arménie n'en refabrique pas parce qu'ils se sont rendus compte en refabriquant justement que la qualité n'était pas la même que celle qui était centenaire. Donc en fait, ils rachètent des jarres qui se trouvent chez les gens, chez les paysans, parfois au bord des routes, vous en avez. À une station de service, vous en avez une qui est posée en plein milieu. Prenez, ils les rachètent, ils les nettoient, ils les remettent en état et puis ils les retravaillent. Et effectivement, ça change. Moi, j'en ai goûté d'une jarre centenaire et d'une autre, et ça n'a rien à voir.
Qu'est-ce que ça apporte au vin?
À mon sens, minéralité, salinité. Je retrouve pas mal de salins. Mais après, bon.
Oui, après, il y a des questions d'oxygénation, d'évaporation, de micro-oxygénation.
C'est plus poreux qu'une cuve, mais moins qu'un fût.
Donc là, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, la grande part de la production est plutôt sur des contenants type inox ou
inox. Beaucoup de cuves, inox. Alors, il y a une habitude qui est née, je pense, depuis une quinzaine d'années, c'est de faire des vins. C'est de produire des vins avec la mention réserve, donc avec l'élevage, en fût de chêne, pour essayer de coller un petit peu au standard, on va dire, des vins du Nouveau Monde. Sans aller sur le côté parkerisé, mais...
En tout cas, c'est très espagnol, Crianza, Robben, réserve.
À mon sens, ce n'est que mon avis, c'est une erreur magistrale, mais bon...
Parce que c'est pas ton goût ou parce que tu juges que c'est dévoyer finalement la culture. Ce qui serait le plus intéressant, c'est de rester fidèle à son histoire.
Bah je pense. Bah, rien n'empêche après de produire des vins avec un élevage en fût, mais produire à tout prix un vin avec la mention réserve avec l'élevage en fût, je pense que c'est dommage. Vous le verrez sur certains le cépage du vin rouge. Ce serait dommage, ou à moins que ce soit vraiment très très bien maîtrisé, de venir masquer le goût avec tous les arômes que peut amener le fût. Ce n'est que mon humble avis, moi je suis adepte de deux cuves. Je ne suis pas très fan de fût, mais bon. À moins que ce soit vraiment très bien fait.
Le domaine un peu connu, emblématique de l'Arménie, qui est le domaine Zora, qui travaille, je crois, quand même sur... La plupart de ces vins, ils travaillent les élevages sur sur des amphores, des carats.
Ouais, bien sûr.
Donc il y a quand même quelques niches. Il est reconnu, en tout cas internationalement.
Un parmi.
C'est l'exception. Il faut toujours des meneurs ou des leaders, mais c'est quand même lui qui permet d'avoir un regard un peu qualitatif sur le vin arménien.
Bien sûr.
Et c'est en lien avec la tradition. C'est la tradition qui met le vin en exergue, plus que l'élevage bois un peu forcé, quoi.
Bien sûr.
En tout cas, ce vin blanc est, moi, je trouve hyper séduisant, enfin, très léger, très direct, comme tu le disais, très aromatique, avec une acidité qui est élégante, une finesse, une vraie finesse. Il n'y a pas du tout d'alcool, j'ai vu sur l'étiquette qu'il faisait 13 degrés, mais c'est pas du tout présent, c'est très fin. C'est un vin qui a déjà 2 ans, et il est 2020 je crois, c'est
2020, millésime 2020.
Millésime 2020. C'est des vins qui se gardent un petit peu. Les blancs là, qu'on vient de boire, pas forcément beaucoup, pas, non. Quelques années.
Je pense pas que
En tout cas 2020, là, il est frais comme...
Je pense pas que ce soit gardé.
Frais comme un gardon.
Je pense que l'idée de ce vin...
On va passer sur le rouge, peut-être que c'est différent sur le rouge, mais...
C'est entre guillemets fait pour boire assez vite. Moi, je ne vois pas de potentiel
de garde. Il y a un vrai plaisir, en tout cas. C'est comme Valérie aime bien parler de rapport prix-plaisir. Je pense qu'à 14 euros, on découvre à la fois un vin d'un endroit qu'on ne connaît pas, un cépage qu'on ne connaît pas, et un vin qui est quand même très, très agréable. Tu as parlé donc du Kangoun. Là, on va arriver sur le rouge, la Rénie. D'autres cépages blancs un peu emblématiques pour nous faire rêver avec des noms exotiques.
On le mentionnait tout à l'heure, il y a le Voskehat. Il y en a un autre qui s'appelle l'Alvari. Garandemak.
Avec à chaque fois une typicité particulière. Là, on est sur la grume. On va avoir quoi des...
On va plus avoir... sur le Voskehat, ce sera plus du miel en fin de bouche, entre guillemets, cette gourmandise. Sur le l'Alvari, ça va être... vraiment le côté agrume mais citron.
Ok.
On a l'impression d'avoir le zeste de citron en bouche à l'attaque, c'est assez impressionnant. Sur le Garandemak, ça va être beaucoup plus ce côté faussement fruit exotique.
Ok.
Fruit très mûr. Et puis. Bon, chaque cépage.
Oui, bien sûr. Tu as réussi à composer, donc tu as combien de vins, combien de cuvées différentes dans ta gamme à Kenat?
On doit pas être loin de 75, je pense.
Ah oui, quand même. 75 vins arméniens différents.
Ouais.
Donc là, que des vins tranquilles.
Que des vins tranquilles. Parce Et après, il y a les bulles.
T'as aussi les bulles, d'accord.
On fait des bulles en Arménie aussi?
Ouais. Petnat, pétillant naturel. Et puis, on fait de la méthode champenoise aussi. J'en ai qu'une, En tout cas, c'est ma sélection, ouais. Qui est, pour moi, est vraiment, c'est fabuleux. Fabuleux. Ah. Je pouvais pas tout amener.
Non. Et quelle est la réception? Parce que j'imagine que tu as démarché des restaurants genre étoilés pour justement apporter une espèce de côté très original à leur carte. Et quelle est la réception de ces restaurants? Enfin, comment ça se passe au niveau de l'accueil justement des vins arméniens dans des endroits où on peut espérer qu'il y ait une grande curiosité, une grande envie de faire découvrir des choses originales à leurs clients? Comment ça se passe?
Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de fin de non-recevoir. Quand je passe un coup de fil, en tout cas, est-ce que vous souhaitez déguster du vin?
Il y a une curiosité naturelle.
Il y a une curiosité parce que personne ne connaît. Qui plus est, sur des vins issus de cépages endémiques, ils n'ont jamais goûté. Ils ont, pour la plupart, pour certains, entendu parler, mais jamais eu l'occasion d'en goûter. Donc j'ai toujours un accueil très chaleureux, à minima sur la dégustation. Après, la vente, c'est autre chose. Plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais l'accueil est très bon. Et la plupart des gens, en tout cas les Français non arméniens, on va dire, sont, à ma grande surprise, très curieux. La majeure partie de ma clientèle, en tout cas à la cave, est non arménienne. Ce qui était mon but, donc je suis ravi, très content. Il arrive que je ne donne même plus de conseils. Les gens rentrent dans la cave, se servent, ils savent ce qu'ils veulent. c'est super.
Sur cette clientèle de professionnels, je prolonge un peu la question de Laurent. Qui sont les publics les plus réceptifs en termes de gamme? Est-ce que c'est des bars à vin parisiens? Est-ce que c'est de la restauration un peu chic, des plutôt bobos, plutôt très gastronomiques, parisiens ou en province?
Gastronomique et puis ce qu'on disait plutôt bistronomie, néo-bistro, ouais. Cuisine d'auteur, je sais pas, c'est un fourre-tout entre guillemets, mais voilà, c'est ce type de restauration qui propose d'une part des vins étrangers, qui veut faire des accords ou qui veut faire découvrir dont le sommelier ou le chef est assez curieux ou propose une cuisine qui peut se marier avec les vins arméniens. Donc oui, effectivement, ça peut être des restaurants un peu onéreux, mais bon, pas forcément.
Des restaurants arméniens ou pas?
Quelques-uns.
Il y en a quelques-uns à Paris. Hein. Genre, je ne sais pas en citer là, mais il y a quelques restaurants. Il y a forcément quelques restaurants arméniens à Paris.
C'est le prochain projet.
Quel est le plat typique en Arménie, par exemple? Qu'est-ce qu'on mange en Arménie?
Bah oui, c'est une bonne question.
Parce que du coup, c'est vrai que les accords mais vins.
Plus on a tous faim.
Même affamé, oui.
Patrice le disait, il y a près de 300 jours de soleil par an. Qui dit soleil dit grillade.
Ah, d'accord.
Donc, on a quand même des plats traditionnels.
Faites griller votre viande au soleil, carrément.
Mais, ouais, il fait assez chaud, hein, il peut faire 45 degrés. Donc, non, les grillades sont très présentes, mais voilà, il y a des plats traditionnels arméniens que beaucoup de restaurants en Arménie, et en particulier dans la capitale, sont en train de remettre au goût du jour pour refaire découvrir le patrimoine gastronomique aux Arméniens. Donc, le premier plat qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on appelle les manti, M-A-N-T-I. Ce sont des petits raviolis en forme de losange, on va dire, avec un petit peu de viande à l'intérieur, avec une sauce tomate, plein d'épices, pour certains avec un petit peu de yaourt et encore un petit peu de sauce tomate par-dessus. C'est très très bon.
C'est intéressant de parler de cuisine un petit peu. Effectivement, ouais. Est-ce que moi je ne connais rien du tout. Je suis désolé en cuisine arménienne. Est-ce qu'on est proche de cuisine du Moyen-Orient d'une manière générale?
Oui, on est proche.
De la cuisine libanaise, de la cuisine grecque, avec des aubergines, avec de la feuille de vigne, ce genre de choses. Ça existe aussi dans la cuisine arménienne. Ouais.
Vous avez des plats typiques, pour le coup vraiment traditionnels arméniens, mais faut savoir que, on le disait, la diaspora fait que. La plupart des Arméniens ont mangé entre guillemets des plats qui viennent de plein de pays, de leur pays d'accueil entre guillemets. Moi j'ai aussi grandi avec la cuisine libanaise
qui n'est pas la, et aussi, qui est pas la plus mauvaise la
cuisine,
des cuisines.
Il y a la cuisine perse qui est fabuleuse aussi, donc
Les raviolis dont tu parlais là, c'est la pâte est faite à base de blé, c'est que,
oui.
D'accord,
tu me donnes l'eau à la bouche.
C'est très 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 bon.
Je suis un gros fan de ravioli. Ça fait penser à notre ami Bertrand de la grosse bouffe.
Qui est fan de raviolis aussi.
Qui, non, mais qui a fait des émissions là-dessus, qui, sur les raviolis, les pâtes, etc. Comment dans chaque pays.
Si vous me réinvitez, je vous en amène un plateau.
Parlons de ce vin, Arénie. Donc c'est un peu la star du vignoble arménien, c'est ça?
C'est le cépage roi.
C'est délicieux.
C'est le cépage roi. Ouais. C'est
moi, je kiffe grave.
J'ai pas encore mis le nez dedans. Il a une couleur sublime. Il est à la fois rubis, un peu marron. Enfin, marron, c'est pas flatteur, mais non, mais il a quelque chose de foncé. Il est pas violet. Il est la couleur est sublime. Non, vraiment. Alors, très très belle.
Désolé pour les Amaliens. Moi, ça me rappelle en couleur, ça me rappelle une Syrah. Enfin, des belles Syrah de moins violacé.
Ah ouais.
C'est ça.
C'est quand même beaucoup plus. Sur
de pinot noir foncé.
Oui, ou un grenache, mais qui soit plus. Parce qu'en fait, il y a une grande transparence. Hein. Je trouve qu'il est quand
rapide.
Même. Il est quand même assez clair.
C'est rubis.
Ouais, j'ai un mal.
Rubis sans être violet. Bon, voilà, ça, on va pas passer une heure sur la couleur. Non, le vin est superbe. Il a un nez.
C'est génial. Ouais, c'est un vrai bonheur.
C'est quel millésime?
2020 en plus, c'est pas. Ouais,
2020. C'est un domaine qui s'appelle Zulal, qui veut dire pur en arménien. C'est une vigneronne d'une trentaine d'années.
En plus, c'est une femme.
Oui.
Ah, génial.
Il y a, et alors je fais une petite parenthèse, il y a de plus en plus de femmes qui produisent du vin en Arménie. Et bon, j'en ai quelques vins qui sont représentés à la cave. C'est des vins qui sont.
Est-ce que
c'est corrélé ou pas, mais c'est qu'ils sont vraiment beaucoup plus délicats, c'est plus fin, c'est plus.
Bon. J'avais envie de te poser cette question sur justement le profil des viticulteurs. J'imagine qu'on est un peu comme partout, à la croisée de générations.
Ouais.
Et en même temps, vu qu'il y a eu cette histoire soviétique jusque dans les années 90, ça veut dire que la viticulture a vraiment redémarré au début des années 90, j'imagine, du coup. Mmh. L'indépendance de l'Arménie,
ouais.
C'est.
En 91,
voilà.
Chute de l'Union soviétique.
Voilà, c'est ça. Donc là, ça redémarre. Et donc, les premiers à faire du vin, ils doivent avoir, voilà, admettons qu'ils avaient 30 ans à l'époque, ils commencent à prendre leur retraite. Et il y a une nouvelle génération qui émerge.
Oui. Vous avez tous ceux qui faisaient du vin pour eux-mêmes. Et vous avez des domaines qui officiellement deviennent des domaines viticoles, institutionnels, affirmés, on va dire. Et puis vous avez aussi beaucoup d'Arméniens de diaspora qui reviennent en Arménie pour produire du vin, pour revenir sur leur terre ancestrale, disons, pour produire du vin. C'est le cas de cette vigneronne, justement. Et puis c'est aussi le cas du Zori Garibian, qui est le propriétaire du domaine Zora que Patrice mentionnait. C'est aussi son cas. Il y en a beaucoup. Donc il participe aussi au renouveau. Les Arméniens d'Arménie, ceux qui ont toujours fait le vin sur place et ceux qui reviennent.
Mais là, typiquement, ce sont surtout des donc vignerons et vigneronnes, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils ont leur chai, etc. C'est eux qui travaillent jusqu'au bout, ou est-ce qu'ils vendent aussi des raisins, comme on le voit dans
certaines
coopératives ou à d'autres certains qui travaillent ont du matériel, parce que clairement là typiquement on est sur des vins qui de A à Z, là ce sont des
vins de domaine.
Des vins de domaine, d'accord.
Ça, ce sont des vins de domaine. Il y a aussi aujourd'hui certaines personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir le domaine, de l'entretenir, et donc qui achètent en négoce des raisins et qui produisent leur vin chez d'autres. Mais qui ont aussi leur propre typicité, bien sûr, qui sont très très bons. Là, en l'occurrence, ce qu'on goûte aujourd'hui, c'est vraiment des vins de domaine.
D'accord. Et la proportion sur tout le vignoble arménien, parce que tout à l'heure, tu parlais de 16 000, c'est ça, enfin, du Beaujolais, l'équivalent du Beaujolais, qui est 14 500, enfin
hectares,
voilà, 17 000, c'est un peu plus grand que le Beaujolais, mais voilà, c'est la proportion du Beaujolais. C'est surtout ça, c'est surtout des vignerons ou ce sont des viticulteurs qui donnent leurs raisins sur la.
Je ne saurais pas dire la proportion. Je pense que ce serait quand même trois quarts, un quart pour ceux qui ont
d'accord,
le domaine.
D'accord, ok.
Ce vin est magnifique.
Ah ouais, franchement, mais moi, je kiffe vraiment.
C'est à la fois d'une fraîcheur incroyable. Il faut savoir que c'est un vin qui est à 14,5. Hein.
Bon, on dirait pas du tout.
Un degré d'alcool qui est quand même...
Il tapisse la bouche, mais jamais il attaque. Quoi.
Alors, la température de service
est
très...
Fraîche, on le boit assez frais.
Parce qu'il est frais. Et on a toute cette Ouais, cette fraîcheur, ce côté limite un peu mentholé, c'est hyper plaisant. C'est un vin facile à boire et en même temps qu'il y a une belle complexité.
Oui, après il y a plein de fruits rouges. Il y a un côté très, moi je trouve très poivré, enfin très épicé. Poivré. Moi, ce qui me pétonnait, c'est pour ça que je parlais de Syrah. Ce qui me pétonnait, c'est le côté épicé de Syrah. Enfin, je dis encore une fois, je fais une analogie parce que je connais pas du tout l'Araignée, donc je me raccroche à mes pauvres petites références. Mais du coup, c'est un cépage fabuleux.
Mais c'est vrai, ça.
Enfin, travailler comme ça, c'est fabuleux.
C'est ce que je dis à mes clients qui viennent à la cave. C'est, ils me demandent souvent comment je pourrais le. Il ressemble à quoi?
Il faut bien par analogie.
Il faut bien que je fonctionne.
Ça
par
ressemble
analogie.
À rien.
Je suis obligé. Pour rigoler, je dis ça ressemble à rien.
Écoute,
mais
tu le manges avec des mantis, voilà. Ou un lama June, et ça va bien se passer.
Du coup, c'est un petit peu péjoratif de dire ça ressemble à rien. Donc, ce que je dis à chaque fois, c'est vrai. Je dis que s'il devait y avoir un cépage qui serait une fusion entre le Pinot Noir et la Syrah, ce serait peut-être l'Araignée.
C'est vrai que c'est très.
C'est ce que je dis tout le temps. Et bon, c'est là, on est quand même. Sur la fraîcheur dont Laurent parlait, on est à 1350-1400 mètres d'altitude.
J'adore le nez. Il a un nez magnifique.
Ouais,
ouais. Mais tu as raison, ça parle tout de suite ce que tu viens de dire. C'est bizarre de se dire un truc qui serait entre la Syrah et le Pinot Noir, mais effectivement, on a l'impression d'avoir ça. Ouais. Moi, je trouve ça
une très
belle découverte. Merci pour ça.
Et ça, Laurent, en cave, ça sera combien?
16.
D'accord.
Ouais, ça va, ça reste
super raisonnable.
Franchement,
c'est super plaisir.
Zoulal, c'est un vin de.
Bon, tu vas avoir une émeute.
Ouais.
En tout cas, je vous encourage tous, allez, parisiens, allez-y, parce que c'est.
Chez Kenatz.
Chez Kenatz.
C'est ouvert de quand à quand?
Du mardi au samedi.
Du mardi au samedi, exactement.
Un peu de vente en ligne ou pas du tout?
Vente en ligne également, ouais.
Ah, voilà.
Également.
On n'est pas écouté qu'à Paris, hein. On va le dire quand même.
C'est vrai.
On est même écouté hors de France, donc
amis suisses,
tu expédies.
Un petit clin d'œil à nos amis suisses, à nos amis québécois,
belges,
qui viennent de temps en temps Wine Therapy.
Ah oui, également. Et même plus loin. Alors, je ne sais pas si tu expédies jusqu'en Thaïlande, mais on a des auditeurs en Thaïlande.
En Thaïlande, jamais fait.
Bon, Allemagne, jamais, oui. J'ai jamais eu de visiteurs thaïlandais qui me disaient qu'ils expédient la Terre.
Quelque chose me dit que c'est peut-être des expats, mais bon, ils ne se présentent pas en disant « je viens de Thaïlande ». C'est tellement une belle découverte. Est-ce que le vin qu'on boit, pour toi, est typique de l'Araignée en général, ou c'est quand même une cuvée assez exceptionnelle que tu sors parce que voilà, tu as envie de montrer ce que ça peut donner de mieux, ou globalement, quand on ouvre un Araignée, on tombe sur quelque chose qui est proche de ça?
On va avoir les notes aromatiques, c'est sûr. Après, pour moi, c'est quand même une très belle expression de l'Araignée.
Mmh. Ouais. Oui, il y a un toucher de bouche, il y a beaucoup de délicatesse.
Oui, on n'a pas dit, mais il y a une fluidité, c'est pas lourd, c'est pas forcément velours
non plus.
C'est très fluide.
Je pense qu'il n'y a pas d'élevage bois, donc c'est très droit, c'est sur le fruit, c'est direct.
Cuvinox.
C'est direct, donc voilà, on a la pure expression du cépage. Bah,
la structure tannique est quand même légère. C'est avant tout peut-être l'acidité qui peut éventuellement
faire tenir le vin.
Marquer quand, à la dégustation, non? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être le premier.
Oui, c'est acide.
Pour moi, il n'y a pas beaucoup de tanins. Enfin, on n'est pas sur un vin tannique.
Non.
Pour autant, je pense que c'est un vin qui, dans 3, 4, 5 ans, aura encore quelque chose à raconter.
Possiblement,
hein.
Je ne sais pas. Du coup,
tu fais un peu de millésime, tu les gardes un petit peu, tes vins? Ou t'as déjà goûté des vins?
Essayé.
T'as déjà goûté des araignées qui avaient 10 ans, qui avaient 15 ans?
Je ne divulguerai pas ce qu'il y a dans ma cave personnelle. Non, je fais moi-même des expériences aussi.
Ouais.
Puisque on l'a évoqué, c'est quand même un vignoble assez jeune. Donc, des vieux millésimes, il y en a, mais ce n'était pas forcément abouti encore à cette époque-là, en termes de vinification, j'entends. Mais j'ai goûté des vieux millésimes sur d'autres cépages, pas l'araignée, mais le plus vieil araignée que j'ai goûté, c'était un 2013. Et c'est déjà très bien. C'est pour moi un cépage qui
il y a une évolution.
Très bien. Il y a une évolution. On garde l'acidité, on garde la fraîcheur, mais on commence à basculer sur des fruits beaucoup plus confits, plus mûrs. Bon, après, tout évolue, période de récolte, où se situe le domaine.
Millésime,
élevage ou pas. Donc, certains vins, oui, sont issus d'araignées, sont destinés à être gardés.
En termes de gastronomie, vous l'associeriez à quel type de plat, ces vins-là? Ou toi, Chante, spontanément, quand tu bois ces vins-là, tu aimes la grillade, effectivement. Alors, je pense qu'avec une côtelette d'agneau...
Je suis carnivore, donc...
Incroyable, ce vin-là.
Côtelette d'agneau, porc, très bien.
Ouais, du porc, clairement.
Il serait temps qu'on mange.
Mettez même un bœuf, une côte de bœuf. Vous pouvez mettre bien des plats en sauce. Vous pouvez tout faire. Très franchement, avec ce type de vin, vous pouvez
je pense que
quasiment tout faire.
Si on veut même sortir du carnet et des légumes
grillés.
Sautés, grillés, ça doit être magnifique aussi.
Moi, je pense que ce qui est marquant, c'est que c'est un vin que tu peux ouvrir pour l'apéro. Ça choque pas.
Il est spontané, il est direct.
Et tu peux l'accompagner sur toute la longueur de ton.
Tu veux dire qu'on peut en boire du soir au matin?
Même sur le fromage. Sur le fromage, franchement.
Oui,
la
structure tannique permet
d'envisager
ça. Oui, ça passe avec tout, là.
Pas obligatoirement. Enfin, je pense que je préférerais un blanc, personnellement. Ouais. Mais c'est typiquement le genre de vin. Enfin, bon, nos habitudes de consommation à la maison font qu'aujourd'hui, on aime bien ouvrir une bouteille pour attaquer avant le repas. Et tu peux te faire plaisir tout le long, quoi. Et voilà, c'est magique, ça.
Là, c'est quel millésime?
2020
aussi. Mm-hmm. Okay.
Un vin Areny. Donc, la région, c'est Vajot-Zor.
Exactement.
C'est au sud de l'Arménie.
OTS, DZOR. Et la cuvée, ça s'appelle Zulal. Et on peut donc le trouver chez Kenatz, chez Chante, à Paris dans le 15e, ou sur un site internet qui probablement s'appelle
www.kenatz.fr.
Le premier vin qu'on a goûté, ça s'appelait Touche pas. C'était également un vin du millésime 2020. C'était un blanc du cépage Kangoun dans la vallée d'Ararat. Là, pour les amateurs d'histoire et de mythologie et de biblicité, non
biblicisme.
De récits
bibliques.
De récits bibliques et millénaires. Voilà. Merci infiniment, Chante, pour cette découverte.
Merci à vous.
On s'attendait à découvrir des vins. On était, je pense, tous les quatre impatients, en fait. Et je dois dire qu'on n'est pas déçus, parce qu'on ne les avait pas goûtés avant. Toi, Laurent, tu les avais goûtés peut-être.
Non, on n'a pas pu passer
même
pas. Avant.
Alors, on avait juste une promesse, vin arménien. Et franchement, je suis bluffé parce que le blanc m'a beaucoup plu, dans un côté direct, élégant et fin, qui va droit au but et qui est savoureux. Et alors le rouge, c'est pratiquement une claque dans la figure. C'est magnifique, c'est un très très beau vin. Enfin, voilà.
Merci pour eux.
Ouais, bravo aux vignerons et vignerons, et bravo à toi d'avoir sélectionné ces vins-là.
Il faut toujours se dire que c'est toi qui les as sélectionnés également.
La gamme, donc là, on va pas
14 et 16.
Ouais, 14 et 16, donc, c'est globalement la gamme de tes prix, où il y a des choses qui descendent plus bas, qui montent plus haut.
On va de 10 à 48,50.
Ok, très bien. Alors le 48,50, il est vraiment exceptionnel par rapport à ça ou...
Il a une méthode de vinification qui est beaucoup plus compliquée.
C'est un vin en amphore? Du coup,
non,
en jarre.
C'est un vin élevé en fût de chêne, mais il a une technique qui s'apparente au passerillage.
D'accord. Ah, d'accord.
Marronner, okay. Faire sécher les raisins sur corne.
D'accord. Intéressant. Voilà. Ah oui, on fait ça aussi.
Et oui.
En Arménie.
C'est une vieille tradition arménienne qui s'appelle kahani, qui provient du mot gachel en arménien, qui veut dire suspendre.
C'est un cépage aussi, le kahani. Non.
Qu'il a bossé son
dossier. Mais là, c'est de l'araignée.
C'est du passerillage, de l'araignée passerillée.
Exactement.
Bon, merci. On va s'arrêter parce que ça fait déjà une heure qu'on parle ensemble. Mais c'était un vrai plaisir de t'écouter. Et puis, un plaisir de déguster ces vins et de cette découverte. Le vin, c'est infini. Hein. On tourne la tête, on voit un territoire qui pourtant fait du vin depuis des milliers d'années. Et puis là, on prend des belles surprises gustatives comme ça. C'est une merveille. Quel bonheur de commencer la saison avec ces vins. Merci encore, Chante.
Merci à vous.
Merci, Laurent. Voilà, rendez-vous chez Kenatz, rendez-vous au White Therapy.
Mon plaisir.
Pour continuer à boire du vin. Voilà, la saison est lancée. Merci, Valérie.
Merci.
Et merci, Patrice.
Un plaisir.
La saison est lancée et la saison nous réserve peut-être quelques surprises. Je ne sais pas. C'est bien les surprises, les nouveautés, les choses qui changent.
Il y en aura.
Il y aura des beaux vins.
Il y en aura.
Il y aura des beaux vins. Il y aura des belles histoires. Il y aura des thèmes aussi. On a quelques thèmes en tête à aborder qui, j'espère, vont vous intéresser.
Alors, pour ceux qui nous écrivent, qui se lamentent de ne pas avoir des épisodes aussi régulièrement qu'auparavant, on essaie de faire au mieux.
Alors on est reparti.
On essaie de faire au mieux.
Attends.
On va faire mieux.
C'est vrai, on va essayer de faire mieux. Cette saison 7 sera mieux que la saison 6.
Un clin d'œil à ceux qui nous écrivent, c'est toujours un plaisir. Un clin d'œil à ceux qui viennent nous dire, enfin me dire, à quel point ils apprécient le podcast.
Merci à vous.
Merci, merci infiniment.
La saison 7.
Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on partage quelque chose qui,
qu'on est écouté.
Qui parle. Non mais qui parle. À des auditeurs, c'est chouette.
Parce que le vin, ça circule même à travers les ondes. Merci infiniment à tous, bonne rentrée. Et puis voilà,
merci à
la
à
prochaine.
Toi,
dans une paire de semaines, on va continuer à filer un petit peu cette histoire de la terre à boire qui continue depuis 7 saisons déjà. Merci, Chante, à bientôt.
Merci.